Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 12 septembre 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la petite phrase que vous attendez tous.
Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.
Précédemment, dans le supplément week-end.
C'est la guerre, hein. Paris est frappé par des missiles, et donc Toulouse est la nouvelle capitale de la France.
Heureusement qu'on a plus d'oust.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum. Das Creek. Et la participation exceptionnelle de JB.
Non, mais vous n'avez rien compris. Je parlais des petites phrases. Quand il y en a une, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Vous croyez que je parlais quoi? Des Auvergnats ou de l'UMP?
Non, je croyais que tu avais une nette propension à alimenter la polémique, alors...
Non, je fais pas ça pour l'audience, voyons. Ce serait complètement superflu et malentendu, hein, Gus? Bah voilà, tu vois, ton micro, il est pas branché. T'aurais été pendant les répètes. Hein?
Wanga.
Ah bah, ils ont inversé les bonnettes, c'est tout.
Comme d'habitude, c'est
non,
ça
non,
la teuf
est...
du
non, non, c'est qu'il était éteint, donc non, faut non, qu'on taille. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz, la poubelle des stations, et on mixe tout en analogique. Et comment dire, c'est pas parce que pendant l'été, on s'est relâché, qu'on a passé des chroniques de bande dessinée, je vais dire, qui nous rappellent que toute la production n'est pas forcément exceptionnelle, et loin de là. Même si apparemment des attachés de presse en service commandé tentent de passer sur mon blog pour dire « Mais si, il est formidable ce bouquin. Moi je l'ai lu, il est génial. »
Je vois pas de qui tu parles.
Alors, je dirais que c'est un mystère au-dessus de Londres. Bref, tout ça pour dire que cette semaine, on a 3 bandes dessinées qui sont d'un très haut niveau. Il y en a 2 qui sont des classiques, il y en a une c'est une suite, il y en a un c'est une réédition. Et point de vue cinéma, Thomas va parler des prochains chefs-d'œuvre qui vont arriver, que l'on attend tous avec une très forte impatience.
Ah, ça fait envie, hein.
D'accord. Je ne sais pas, j'ai pas lu sa chronique, je vous le dis de suite. On a j'ai bien les prompteurs, mais je ne sais pas ce que je viens de dire. Voilà, je ne sais pas en quoi je m'engage. Loin de là, néanmoins, de dire que on fait de la caca. Nous recevons sur ce plateau et parfois en direct des auteurs de qualité, voire même absolument d'exception. Je vais dire ça, ça s'appelle de la brosse à reluire et du teasing. Je parle de Frédéric Boilet. Oui, parce que la semaine dernière, on parlait comment une jeune fille de la bande dessinée a connu un immense succès avec Fraises et Chocolat. Et comment elle a raconté son ascension dans Buzz-moi, qui est sorti aux Impressions Nouvelles. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de son amant. Alors Frédéric Boilet, c'est celui qui a créé le terme nouvelle manga, mais qui a surtout popularisé le concept de bande dessinée du quotidien. Dans l'une de ses toutes premières œuvres, bande dessinée du quotidien, comment vous dire? Vous savez, c'est un peu justement le principe de la nouvelle vague, c'est on raconte un peu les gens du quotidien. Ce qu'on a aussi essayé de faire en France avec les sitcoms, avec Plus belle la vie. Malheureusement, toute l'audience décrochait au bout de 4 mois, donc au bout d'un moment, ils ont commencé à mettre des histoires de camions qui se renversaient, de trafic de drogue, etc. Les trucs qui n'avaient rien à voir avec le quotidien, mais après tout, on est habitué. C'est Marseille, ils ont un peu l'habitude de galéger un peu dans leurs histoires. Bref, tout ça pour dire que la nouvelle manga, Frédéric Boilet l'avait plus ou moins théorisé, et surtout il avait une manière assez particulière de le mettre en pratique, c'est-à-dire que ça consiste tout simplement à se rendre sur place, prendre des photos, à inclure des vrais gens dedans, et c'est quelque chose qu'il a fait plusieurs fois. D'abord avec Tokyo et mon jardin, ça, on s'en souvient, avec l'épinard de Yukiko, où c'est une espèce d'auto-fiction finalement, puisque il se met lui-même en scène, mais il raconte plus ou moins une fiction derrière. Ou l'épinard de Yukiko et d'autres albums. Mais il avait plus ou moins commencé avec 3615 Alexa. Et avant ça, 3615 Alexa a été réédité récemment, il y a eu Le Rayon Vert. Et Le Rayon Vert vient d'être réédité aux Impressions Nouvelles. Et c'est franchement les prémices de sa narration. Alors Le Rayon Vert, il faudrait commencer par... je sais, c'est samedi matin et qu'on est maintenant à la semaine des 4 jours, mais...
Ouais, la première fois que j'ai entendu parler du titre, j'ai cru que c'était un Blake et Mortimer.
C'est vrai que ça mais pourrait c'est... y ressembler, mais c'est
mais
un roman de Jules Verne.
Il y a un Black et Mortimer qui s'appelle Le Rayon Vert, non?
Non, c'est la marque jaune.
C'est la marque jaune, mais il n'y a pas Le Rayon Vert.
Oui, non, mais ça me rappelait quelque chose. À Black et Mortimer.
Ça me rappelait un truc, mais il y a très 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 longtemps.
C'est un roman de Jules Verne,
voilà,
à la base.
Ah, putain, mais ça me dit quelque chose.
C'est très exactement au moment où le soleil apparaît ou disparaît derrière l'horizon. L'atmosphère fait une espèce de diffraction, ce qui fait que la lumière blanche est éclatée, la lumière blanche est décomposée en une espèce d'arc-en-ciel, sauf qu'au lieu que vous soyez de côté, vous voyez l'arc-en-ciel, et ben en fait vous êtes dedans. C'est pour ça que les levées, les couchers de soleil nous apparaissent comme rouges. Ce n'est pas que le soleil devient subitement rouge, c'est juste que l'atmosphère agit comme une espèce de filtre, mais un filtre diffractant, ce qui fait que on a cette lueur rouge, c'est pas l'atmosphère qui est tout simplement teintée. Le rayon vert, c'est un phénomène optique, l'on peut voir à très très grande altitude, mais aussi dans un ciel particulièrement pur, comme celui du pic du Midi. L'air y est suffisamment transparent pour que les couleurs au spectre plus haut commencent à s'en détacher. Et donc pendant une seconde, une lueur verte peut être visible à la place du soleil, soit au coucher, soit au lever. Le rayon vert, c'est aussi un nom et le sujet d'un roman peu connu de Jules Verne, du moins jusqu'à ce qu'il y ait un film qui en ait été adapté en 1987, c'est-à-dire contemporain de la sortie de cet album de bande dessinée.
Qui c'est qui avait le film déjà ?
Et Eric Rohmer.
Oui, c'est ce que je me disais. Oui.
Et c'est ce roman qui va se faire croiser trois histoires. Deux enfants à Strasbourg, deux artistes des rues sur les routes de France et un jeune guide touristique au pic du Midi. Le rayon vert a été le fil conducteur de leurs histoires. Une histoire d'émerveillement ou une histoire tragique? Alors, quand ce livre est sorti en fin 1986, la première édition n'était restée que moins de 5 mois en librairie. Il avait pourtant eu un accueil critique élogieux. C'est juste qu'au pas de bol, les éditions Magic Strip, tiens, encore Didier Passamonique, ont fait glou juste après. Entre-temps, les films d'impression ont été perdus, les originaux ont été jaunis, et quand... Plus de 20 ans après, Benoît Peters a donné l'occasion à Frédéric Boilet de rééditer cet incunable. Il a fallu donc restaurer les planches, refaire une colorisation avant de les rééditer dans un format un peu plus grand qu'à l'époque, celui des albums actuels finalement. Graphiquement, le trait se cherche encore. Certaines couleurs nous surprennent par leurs éclairages, voire même peuvent, à la limite, je vais dire, on n'est pas trop habitué justement à ces jeux de lumière. Certains noirs envahissent le cadre au point d'être oppressant. Mais on sent que ce que va devenir l'auteur par la suite et ce qui va le faire connaître. Et ceux qui ont visité le pic du Midi récemment seront surpris de le retrouver à une époque où le nombre de touristes était largement plus léger, où ce n'était pas encore devenu un lieu touristique, mais c'était encore un endroit de science et de radiodiffusion. Pour y avoir travaillé, justement, j'y ai retrouvé cette ambiance un peu hors du monde. Ces pages à la fin permettent d'en savoir un peu plus sur l'album et un peu plus justement sur les différents personnages qui composent cet album. Puisque petit plus, j'ai appris dans ce dossier qui a été choisi comme modèle pour le personnage principal. Kafka, alias Francis Kunz, pour CNL International.
Et à l'époque, il avait l'air, il s'était miné. Hein.
Il est plutôt costaud.
Maintenant, il est plus costaud, mais à l'époque, il était vraiment, il était beau gosse. Hein. Regarde la photo du sport.
Oh ouais.
C'est...
On dirait Jean-Louis Murat, je dirais.
Oh, là, tu te moques, là.
Francis, désolé si tu nous écoutes. Bref, c'est un bouquin qui est resté trop peu longtemps, je veux dire, sur les étagères des librairies pour avoir vraiment fait date, mais qui, néanmoins, a justement été les prémices de la nouvelle manga à sa manière. C'est le bouquin que Frédéric Boilet s'est justement détaché parce qu'il avait fait 2-3 albums auparavant, mais avec des scénaristes maison, vous savez, c'est le scénariste qui fait 10 à 20 albums par mois pour la maison d'édition. Je ne parlerai pas de François Martial Froideval pour Dargo ou de... mince. Chez Soleil.
Mourad Boudjilal
Non, Mourad fait pas de scénario. Je parle de...
Ah, Arleston.
Scott. Christian Arleston.
Christophe.
Christophe. Et tous les autres. C'est là où il a vraiment fait son histoire. Et il a trouvé justement la manière de générer rapidement des histoires. Mais des histoires qui se tiennent vraiment et qui sont intéressantes. On peut croire comme ça que le bouquin est décousu au tout début. Mais c'est au contraire quelque chose de très bien construit. Avec tout plein de parallèles. Assez étonnant. C'est un peu, je vais dire, comme The Big One ou tous ces films où justement on suit des carrières qui sont complètement parallèles et qui au bout d'un moment se croisent à un point focal. Et ce point focal, eh ben, c'est celui du rayon vert. Frédéric Boilet réédite donc le rayon vert avec une remise en couleur pour la bonne cause. C'est aux impressions nouvelles. Et c'est bien évidemment un plaisir à relire. Vas-y Thomas.
Il y a une photo de Boilet à 27 ans. C'était la,
ah ouais, c'est étonnant.
C'était la coupe de cheveux des années 80. Hein.
Ouais, tout à fait, ouais.
Non, mais surtout, il est blouson en cuir et tout, un peu rocker et tout ça. Quand on le croise maintenant avec sa chemise blanche, c'est pas vraiment ça.
Rocker Dépêche Mode, ouais.
Ah oui, ouais, grave.
C'est non, mais dis pas du mal, hein, des fondateurs de cette radio.
Et c'est même le look Tony Vérel, je dirais.
Mais ça, je sais pas le dire. Hein.
Alors, je pense qu'il faudra qu'on se méfie parce que peut-être que du fin fond des Vosges, il y en a qui écoutent notre podcast. Voilà, je me rends compte que c'était pas le bon fond musical que j'ai utilisé, c'est bien fait pour ma gueule. Mais néanmoins, si vous voulez en savoir plus sur l'œuvre de Frédéric Boilet, il y a son site boilet.net, sur lequel il y a une présentation trilingue de ses œuvres. Et ben, si vous voulez en savoir plus, il y a bien évidemment Tokyo et mon jardin, ou encore l'album Demi-Tour, qui est un peu sur le même concept, c'est-à-dire des personnages qui se croisent, et qui a été, prise en photo, repérée sur les lieux au moment précis par Frédéric Boilet et Benoît Peters. C'était au moment du second tour des élections présidentielles de 1995. Et c'était dans la collection, par repérage, je dis une bêtise, c'était chez Dupuis, dans la collection Air Libre. Là aussi, c'est vraiment un bouquin fondateur, un bouquin qui est important, je vais dire, pour la bande dessinée actuelle, moderne, et qui raconte des choses sans que ça soit forcément chiant. Au contraire, c'est très drôle. Maintenant, voilà, c'est l'inconvénient, c'est que le bouton stop est de l'autre côté, voilà. Je suis trompé, ça arrive. Richard Marazzano au scénario, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose si vous avez suivi cette émission il y a environ 2 ans. Et Chris Lamke au dessin. Chris Lamke est un autre dessinateur que j'estime énormément. Echo Warriors, le premier tome s'appelle Orang-Outan. Ça vient de sortir chez 12 bis édition, qui est une maison d'édition qui a un programme éditorial qui est plutôt costaud et bien foutu, qui est fondé par les anciens de chez Glénat. Le détail a son importance, vous le saurez un peu pourquoi tout à l'heure. Ça, là aussi, il y a besoin, je veux dire, de faire une leçon du samedi matin. Je suis désolé, mais cette fois-ci, on va faire de la géographie. L'île de Sumatra est une île de l'Océanie, sur laquelle on trouve l'une des dernières vraies forêts primaires, ce que les non-biologistes appellent la jungle. C'est un immense réservoir de biodiversité, avec un nombre difficilement calculable d'espèces animales et végétales encore non répertoriées. Oui, forcément, donc c'est difficile à calculer, on ne fait qu'une estimation et encore à la louche. Au milieu de la verdure de Sumatra, ils vivent aussi différents peuples, différentes tribus qui ont plus ou moins de contact avec la civilisation, que ce soit par la bière, la religion, la télévision et le t-shirt à l'effigie d'un quelconque club de football. Bref, c'est vous dire s'ils ont le meilleur de notre civilisation occidentale, si bien évoluée. Mais bien évidemment, cela n'en ferait qu'un tableau idyllique à la Kipling, si on n'y ajoutait pas le braconnage, les guerriers Ross, les mineurs peu souciés de préserver l'environnement, et certaines opérations occultes de grandes entreprises. Chris s'est engagé dans une ONG, ONG donc je vous le rappelle, ça veut dire organisation non gouvernementale, comme la WWF, Greenpeace, et encore d'autres, espérant réparer à sa manière une partie des dégâts. En l'occurrence, aider les orangs-outans qui ont été braconnés et revendus à de très riches particuliers ou à des zoos peu scrupuleux à revenir à la vie sauvage dans leur environnement naturel. Pas très loin de la CUT, qui lui a été assigné en guise de dispensaire, il rencontre Eva, une jeune fille envoyée en mission par une église baptiste dans l'espoir de convertir une région où les croyances animistes ont déjà beaucoup de mal à se maintenir face au bouddhisme et à l'islam. Eva est assez vive, motivée, pour ne pas dire emportée. Bref, Chris savait que ces 3 mois de mission n'allaient pas être des vacances, mais manquait au programme la guérilla et quelques recherches confidentielles de très grosses boîtes. Non, ça ne sera pas un récit de voyage à la Kipling. Le scénario est dense, en enjeu, et on voit très bien le moment où l'engagement pour une ONG peut faire basculer dans le militantisme, et où finalement n'importe quel sujet peut devenir l'objet d'un fanatisme meurtrier. C'est un polar où la jungle peut, à tout moment, se révéler meurtrière, mais pas forcément pour les raisons que l'on peut croire. Alors, à la lecture, j'ai remarqué, mais après tout, j'ai souvent l'esprit trop imaginatif ou mal placé, des références graphiques à d'autres albums de Chris Lomke, Alvin Norge, qui est sa série actuelle, mais aussi une série beaucoup plus ancienne des années 80, qui s'appelle Khazar, et qui à l'époque paraissait dans Tintin. Richard Marazano n'est pas inconnu de nos services, car il est capable de sortir un excellent scénario, hélas massacré par un dessinateur qui se limite à de la retouche photo. C'était pour la trilogie Le Complexe du Chimpanzé. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais nous, on a franchement été écœurés par le traitement du scénario. Le changement de singe, lui, a permis de trouver un excellent dessinateur. Et c'est pas un mal. Ah, évidemment, là, comme c'est de la radio, vous voyez pas qu'il y a un accent circonflexe sur le E, que ça s'unit par un E. J'en suis désolé. Bref, Richard Marazano au scénario se fait superbement illustrer au dessin par Chris Lamke, Echo Warriors. Le tome 1 s'appelle Orang-Outan et c'est chez 12 bis édition. Du sport pour la beauté de la bande dessinée franco-belge s'est immédiatement jeté sur le bouquin suivant et qui est une suite en plus. Hein,
oui, non, mais je sais justement.
Une suite et à l'époque, les 5 premiers tomes avaient fait un raffut du tonnerre, à la fois critique, à la fois un succès commercial et aussi un succès juridique. Mais ça, on en parlera dans la suite. Puisqu'il s'agit de François Bourgeon qui revient pour Les Passagers du Vent, le 6e tome s'appelle La Petite Fille Bois Caïman, et c'est aussi chez 12 bis édition. François Bourgeon, c'est celui qui allait donner ses lettres de noblesse à la bande dessinée en costume. Alors il reprend enfin sa saga après plus de 25 années d'absence. Ça fait beaucoup. L'histoire est toujours incroyablement détaillée, le dessin d'une précision vertigineuse. Mais comme beaucoup d'années sont passées, nous ne suivons plus Isa entre l'Afrique et les Antilles alors que la France se prépare à prendre la Bastille, mais plus de 80 années plus tard dans l'ancienne Louisiane, alors que les États-Unis sont en train de s'entre-déchirer en une guerre civile. C'est le destin de Zabo qui est l'axe de ce nouveau cycle. Zabo tient de son père les jurons, de sa mère l'affection d'un esclave affranchi. Oui. Elle est fille d'une riche famille de planteurs de la Nouvelle-Orléans, ruinée par les aléas de la guerre. Elle tient de cette fierté de cette vieille famille française, mais aussi de la candeur dans la vie. D'une oie blanche qui n'a que rarement finalement quitté la propriété familiale. Alors déambuler dans les états sécessionnistes en guerre n'est pas franchement une promenade de tout repos. Heureusement, il y a les rencontres fortuites, comme le photographe Coustance, et bien plus tard, un des personnages clés du premier cycle. L'aventure est hissée et c'est encore une fois les relations troubles entre les pensées issues des siècles des Lumières et la réalité quasi industrielle du commerce triangulaire, de l'esclavagisme, qui forme une partie de l'intrigue. Ces contradictions d'une civilisation conquérante qui croyait avoir défini l'idéal de l'être humain. L'histoire est parfois crue, les décors absolument splendides, et la précision de la documentation de François Bourgeon nous fait découvrir des curiosités étonnantes. Par exemple, dans une bonne moitié du sud sécessionniste des États-Unis, la population blanche parlait surtout le français et l'espagnol, et parfois beaucoup plus que l'anglais. Les dialogues se font aussi en créole, et le lecteur a le choix entre foncer directement en traduction ou se laisser porter par ces phrases énigmatiques. Je rappelle un point important, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de langue officielle écrite dans la loi ou la constitution. Certains États ont pris une langue officielle et une langue de complément, et bien souvent c'est l'espagnol. Voire, d'ailleurs, je crois que tu es censé présenter aussi les papiers en chinois dans l'État de Californie. Alors, la production de François Bourgeon ne s'était pas exclusivement cantonnée dans la bande dessinée improprement dite historique. Après tout, c'est de la fiction, c'est pour ça que j'ai toujours utilisé le terme en costume. Ainsi, la série de science-fiction Le Cycle de Cian, avec Claude Lacroix, nous avait tout autant estomaqué, mais cette série de science-fiction avait connu les mêmes déboires que Les Passagers du Vent, à savoir un conflit fort contre un éditeur qui a dû se régler entre les tribunaux. Le procès entre François Bourgeon et Glénat pour Les Passagers du Vent a été un point très important en 86 sur à qui appartiennent réellement les planches, qui est réellement l'auteur et qui réellement peut décider si la bande dessinée n'est pas une littérature comme une autre, et ben si finalement l'auteur a le droit de faire ce qu'il en veut du texte. C'est quand même assez important, hein. Ce même genre de procès a eu lieu au début des années 2000 avec Le Cycle de Cian, parce que François Bourgeon mettait son temps à sortir les albums. Entre temps, Casterman a été racheté par un grand groupe italien et souhaitait que l'album sorte au plus vite et avait exigé une date de sortie. Là aussi, le procès avait été assez violent et ça s'est terminé. François Bourgeon est allé éditer sa série chez un autre éditeur. Voilà, ciao, bye bye, on ne se parle plus, il en est hors de question. Donc il s'est fâché avec Glénat, il s'est fâché avec Casterman, mais il n'a pas que des mauvaises relations. S'il est édité chez 12 bis éditions, c'est qu'il avait encore des contacts chez Glénat qui étaient plus qu'amicaux et il y a des éditeurs qui ne sont pas forcément que des commerciaux, et puis point barre. Les Passagers du Vent, le tome 6, le nouveau cycle, s'ouvre par La Petite Fille Bois Caïman. C'est François Bourgeon donc qui le fait d'une qualité absolument extraordinaire, avec le quota de filles déshabillées pour faire plaisir à Thomas, et c'est chez 12 bis éditions. Il faut expliquer le running gag là, peut-être.
Oui, bah, c'est parce que c'est sorti d'une idée que j'avais soumise à la rédaction, que effectivement, à BD Franco-Belge, il fallait toujours une scène de copulation ou une scène de filles déshabillées. C'est vrai que j'ai vérifié, il y en a une.
Où ça?
Vers la fin.
Dans ton cul, au fond à gauche.
Ah non, mais c'est pas dans celui-là, c'est dans... Ah oui, si, y a la nana, elle a le pantalon par terre, et dans celui-là aussi, il y a la nana qui est en train de se doucher. Oui, parce qu'ici on chronique des BD avec des nanas à poil, donc si ça peut faire vendre encore plus.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il me faut de la motivation, moi, pour je les prenne pour les lire. Qu'est-ce que vous croyez? Messieurs les éditeurs, les auteurs, qu'est-ce que vous croyez?
Mais dans ce cas-là, tu chroniquerais.
Envoyez-nous des sambots.
Tu chroniquerais beaucoup de mangas pour les ados alors?
Non, mais moi, la différence de Elle Magazine, je les lis. Oh, non, pardon, ok, d'accord.
Ouais.
12 à 23 minutes et 35 secondes. Tiens, je vais passer la pub en avance pour une fois.
Du 12 au 20 septembre 2009, c'est la 22e édition du Festival de rue de Ramonville.
Hé, hey, Seigneur! Tu veux bien payer une Mercedes-Benz?
La thématique pour cette 22e édition, c'est un monde presque parfait. Un monde fait de bras cassés, de poètes du quotidien, que l'on qualifie bien souvent de non productifs, d'images que nous espérons fortes, dénonciatrices ou ludiques sur ce monde rêvé parfait.
Seigneur,
seront présents pendant ces 8 jours de fête totalement gratuites. Le collectif Mix Art Miris, Voiture Colère, La Friture Moderne, Les Requins Marteaux, Béga Theater Company, Compagnie de l'Autre et tant d'autres. La 22e édition du Festival de rue de Ramonville, du 12 au 20 septembre, sur les sites de Toulouse, Pouze, Labège et Bazièges. En partenariat avec Radio FMR.
Et maintenant, voici le supplément week-end, la partie Cinoche. Non mais, faites pas chier, bande de nazes.
Il est bon la Cinoche, il est
avec la présence exceptionnelle de JB dans nos studios.
Bonjour. Je t'extasier, bonjour.
Oui, parce qu'on t'annonce depuis quelques temps, et oui, avec la participation et semaine de JB, mais JB n'est jamais là. Et là, aujourd'hui... JB,
à tel point qu'on a été obligé de faire les nouveaux génériques sans toi.
Bah oui. Non, mais s'il était là tout le temps, ce serait pas exceptionnel.
Voilà.
Enfin, en même temps, s'il avait quelque chose...
C'était exceptionnel tout le temps.
En même temps, s'il avait quelque chose à dire, ça se saurait.
Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui?
Mais du... ce que tu vas parler, là, justement.
D'accord. Alors, si je dégaine mon téléphone, ce n'est pas pour frimer. C'est parce que j'ai oublié d'imprimer ma chronique. Et donc, ma chérie m'a gentiment envoyé par mail ma chronique en faisant un copier-coller ce matin. Donc, je vais allumer mon téléphone. Hein.
tu sais que tu captes pas ici?
Si.
Pas avec le mien.
Alors voilà, donc je lis mon mail.
Non, mais le tien, c'est une version 1, c'est jamais les bonnes. Non, avec Apple, c'est toujours les deux.
On a exactement le même.
Bref, alors j'avais fait justement attention de ne pas mentionner Apple. Ah, la connexion serveur a échoué. Bon, on s'en fout, le mail a été téléchargé. Alors, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un film en particulier, mais je suis tombé sur 5 pitchs de films assez improbables sur le net.
Ouais.
Et je vous mets au défi de trouver lequel est vrai parmi ces 5 films.
Alors,
nous avons un touriste qui vient nous dire bonjour en faisant l'âne derrière. Nous accueillons Kinou.
Kinou est parmi nous. Et là, il lui faut sa musique.
Il a une musique, Kinou?
Oui, il a une musique.
Alors, attends, oui, voilà, informatique.
Allez, va t'asseoir, je t'en prie. On va trouver un micro, non mais, comme ça ici.
Ouais. Quoi, c'est un martien?
Ouais, c'est un martien.
Ah, ben arrêtez, fermez la porte, y'en a qui viennent là! Non, on va se renvahir par booster!
Oui, on n'accueille pas des radios contre nous.
Il est déguisé en Marseillais, faites gaffe! Allez, donc!
Ah, d'accord, ok. Alors, premier pitch improbable. Alors, tu voulais intervenir peut-être, non?
Non.
Bah,
non.
Donc, il faut expliquer. Thomas donc va faire des pitchs improbables de films. Il faut deviner si oui ou non ils vont être effectivement tournés.
Voilà.
Voilà, bon, il s'agit des informations officielles.
Parmi les cinq, il y en a un qui est vrai. Alors, le premier, le nouveau film de Mamoru Oshii, puisque ici on en a beaucoup parlé, c'est le réalisateur des Pat Labor et de Ghost in the Shell, des films d'animation un peu auteuriste, on va dire. Et son nouveau projet s'appelle KFC Movie, puisque ça raconterait l'histoire d'une combattante du KFC qui est larguée sur une planète désertique et qui affronte à bord de son mecha un immense ver des sables. Puis elle tombe sur une statue géante du colonel Sanders, le fondateur de la chaîne du restaurant KFC. Et alors, en fait, il n'y en a pas une femme, il y en a trois en fait, qui sont. Et donc, trois femmes guerrières qui vont combattre des vers de sable, alors influence d'une, tout ça. Et le film est prévu en tout cas pour une sortie en décembre prochain au Japon. Donc ça, c'était le premier pitch improbable.
Alors, malheureusement, je dirais qu'il a besoin de pognon en ce moment. Je suis prêt à faire le pari.
D'accord.
C'est pas la première fois qu'on voit passer le colonel machin là de KFC dans une animation japonaise, puisqu'il était dans Projet Akko.
Sauf que là,
il y avait un remake d'un film d'horreur où tu as la gamine qui pleure. Et puis à ce moment-là, tu vois le capitaine de KFC.
Coucou.
Petite précision, ce film est un film live.
Ce sera un film live?
Ouais, à la Avalon, un peu retrafiqué, tu vois. Alors,
ouais, y a bien eu des films à la gloire de DHL et du PS, alors, avec Tom Hanks en plus.
Hein? Oui, Seul au monde DHL.
Seul au monde,
d'accord.
Non, ah, bah, UPS, voit... UPS.
On
UPS.
Ne voit que ça.
Hein. Ah, du PS, du d'accord. Ouais,
okay. UPS. Non, 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 ça c'est Hold Up, Sarnac et. Mais ça, l'adaptation cinéma est prévue. C'est Luc Besson qui le fait d'ailleurs.
Alors, pitch numéro 2, l'agence touriste a son casting bouclé, donc ce sera Liam Neeson dans le rôle d'Hannibal Smith, pas l'acteur, hein. Laurence Fishburne en Barracuda, Robert Knepper, que les fans de Prison Break connaissent bien,
T-Bag
en Looping et Casper Van Dien en Futé.
Ouais.
Ce sera réalisé par Joe Carnahan.
Oh non.
Et si, sorti si. Prévu aux USA le 11 juin 2010 et en France le 30 juin 2010.
Alors je vais faire le pro. Vu que Hollywood en ce moment ils sont en panne d'idées et qu'ils font que recycler des vieilles séries et qu'ils ont été capables de faire tuer Jim méchant, non, je dis oui. Je dis oui. Je d'accord. dis que malheureusement c'est possible.
Eh, vous êtes d'accord, ça donne envie tout ça pour l'instant.
Moi je dis pour le moment qu'ils sont tous vrais, sauf un qui que vous créez dans le lot et qu'on verra après. D'accord. J'attends que tu les aies tous sortis.
Ok. Piche numéro 3.
Tu les as lus, c'est pas drôle.
Et non, j'ai rien.
Les 3 mousquetaires à extinction. Alexandre Dumas va en effet se retourner dans sa tombe. Paul Anderson, le réalisateur de Mortal Kombat et Resident Evil, va mettre en scène une nouvelle adaptation des 3 mousquetaires avec en plus de la 3D, puisque la mode en ce moment avec les projections 3D. Alors le type, il veut plus de tunique et chapeau à plumes en tout cas, mais beaucoup d'action tape à l'œil et surtout il veut Mila Jovovich dans le rôle de Milady. Alors on attend de pied ferme ce nouveau projet de Paul Anderson, un réalisateur que nous apprécions beaucoup ici. Alors, Cars 2 Tokyo Drift pour le pitch numéro 4. Alors ce sera un road movie.
Il
hein,
y a déjà eu un Cars 2.
Non.
Non.
Juste le 1.
Pixar ne fait pas de suite.
Si, puisqu'il y a Toy Story 3 l'année prochaine.
Oui, mais.
Et maintenant c'est Disney.
Hors Toy Story, d'accord.
Maintenant c'est Disney.
Alors ce sera réalisé par Brad Lewis, le réalisateur de Fourmis chez DreamWorks, le concurrent qui est aussi producteur de films. Alors ce sera justement un road movie où Flash va devoir participer à un championnat du monde de course à travers le monde. Hein. Il va devoir se frotter aux maîtres de plusieurs disciplines comme le rallye ou la Formule 1. Alors à Tokyo, ça se passera au pied du mont Fuji avec une voiture en hommage à Vin Diesel. Puis dans la forêt noire en
une TDI.
Puis dans la forêt noire en Allemagne. Après ils vont aller en Italie où il y a Schumi qui fait d'ailleurs une apparition dans le 1. Il revient.
Pas du tout.
Où il fait équipe avec une voiture brésilienne à laquelle il manque un phare. Puis à Paris et enfin au Buckingham Palace où justement Flash va devoir en découdre avec les services secrets et notamment avec une certaine Aston Martin. Réalisé par Brad Lewis, donc sortie prévue en juillet 2011. Et enfin, le meilleur pour la fin, le cinquième pitch, Rambo vs Predator, où Rambo est mandaté par l'armée pour chasser quelque chose ou quelqu'un près du cercle arctique. Une abomination est en effet lâchée et s'en prend à des installations secrètes de l'armée américaine et tue des gardes d'élite. Rambo, à la tête d'un commando, devra stopper l'avancée du mal vers le sud et affronter la plus abominable des terreurs, à moitié humaine et très puissante, créée à partir d'expériences génétiques par une agence secrète. Bref, quand le plus redoutable prédateur né dans l'horreur du Vietnam rencontre une créature aux frontières de l'entendement, ça va charcler sévère. Vous avez vos 5 pitchs ? Je récapitule, Rambo vs Predator, nous avons Cars 2 Tokyo Drift, les 3 mousquetaires extinction, on a également l'agence touristique avec le casting béton et finalement le nouveau Mamoru Oshii KFC Movie. Faites vos jeux.
Bah, je dis l'agence touristique.
Alors,
L'agence touristique.
Hein. Ouais, c'est le seul vrai ?
Le plus probable.
D'accord.
Moi j'en vois deux en fait, hein, c'est l'A-Team et Rambo versus Predator.
Ouais.
Ça, il en a entendu.
Rambo versus Predator. Rambo en fait, mais c'est Predator, un gros bonhomme des neiges.
Hein. Le Yeti.
C'est le Yeti. Ouais. Ouais.
Par contre, les 3 mousquetaires, c'est pas possible parce que la prochaine 3D sur un film comme ça sera plutôt Cyrano de Bergerac. À cause
du Tarn. Ça sorte. Fallait que ça sorte celle-là.
Les 3 mousquetaires, je vois pas l'intérêt quoi en fait. Voilà.
D'accord. Et toi, Xavier ?
Moi, A-Team me semble évident. Et le Mamoru Oshii. À part le détail scabreux de la pub, je pense que oui.
Alors, la solution, c'est que tout est vrai.
Oh non.
Ouais, mais alors...
Alors, KFC Movie, je n'ai rien inventé, tout est vrai. Tout ce que j'ai dit, ça a été chopé sur le net et ça a été relayé par DVD Rama. Donc, je n'ai rien ajouté. Ensuite, A-Team, bien sûr, le casting est bidon. Alors, c'est effectivement réalisé par Joe Carnahan avec Liam Neeson dans le rôle d'Hannibal, mais il n'y a pas Laurence Fishburne, il n'y a pas Robert Knepper, il n'y a pas Casper Van Dien. Par contre, dans le rôle de Futé, c'est Bradley Cooper qui joue dans Very Bad Trip et qu'on a pu voir aussi dans Alias, le journaliste, l'ami de Sidney Bristow. Et donc là, j'ai le casting. Nous avons aussi Quinton Rampage Jackson dans le rôle de Barracuda, c'est un gars qui a fait du combat libre, donc un gars qui vient de la lutte. Et donc Neil Blomkamp qui jouera Looping qu'on peut voir actuellement dans District 9. Ensuite, les trois mousquetaires, tout est vrai à part Mila Jovovich dans le rôle de Milady, mais effectivement le réalisateur de Mortal Kombat veut adapter à nouveau les trois mousquetaires avec de l'action tape à l'œil, et c'est vraiment une vraie citation. Et oui, ça fait peur. Cars 2 Tokyo Drift, bon, le titre est bidon, mais Cars 2, et ça se passera bien dans les villes que j'ai mentionnées. Alors pas de Choumi avec Felipe Massa.
Le coup de la voiture brésilienne, ouais, non, Phantom d'Ayrton Senna, c'est ça?
Ouais. Ben ouais, Felipe Massa qui s'est entarté l'arcade subsidiaire. Bon non, c'était non, ils le feront pas. Par contre, effectivement, il va l'Aston Martin, c'est vrai. Avec justement une affaire de service secret à Buckingham Palace, ça va être rigolo. Et le Rambo versus Predator, bon, évidemment, il affrontera pas le Predator, mais tout ce que j'ai dit, c'est vraiment un copier-coller de ce qui a été annoncé lui-même par Stallone, où effectivement, il va devoir affronter une espèce de chose qui s'en prend à des mi-soldats génétiquement modifiés, mi-autre chose. Et ça se passera effectivement dans le cercle arctique.
The Thing?
Ben ouais, The Thing versus Predator versus Universal Soldier, ça donne envie, hein.
Non, non, mais ouais. En fait, Xavier a raison, hein. Ils ont plus d'imagination, c'est impossible. Le truc, ils savent même plus quoi faire, faut tourner en rond.
C'est une catastrophe, les gens fuient les salles de cinéma, il faut leur offrir du spectaculaire. Ouais, non, mais ils vont fuir quand même. Hein.
C'est pas vrai, parce qu'on est quand même, nous, allés au cinéma ces derniers temps, et on a vu pas mal de bons films. Hein.
Oui, mais ils se plaignent aux États-Unis. Alors, je sais pas si tu es au courant de cette histoire-là. Je crois que c'est à Reims où toutes les projections commencent maintenant avec des mecs qui regardent avec les jumelles infrarouges pour essayer de choper le type qui rippe les sonores et tout. Ils savent que c'est dans ce cinéma-là.
Ah ouais, d'accord, carrément.
Ils ont repéré le coin d'écran.
Ben en fait, il y a un watermark sur les images et dans le son, donc c'est super. C'est super.
Pour l'écriture de cette chronique, je tiens à remercier l'aide précieuse de Broseb, qui est un grand fan de l'émission. Bon, ces propositions n'ont pas été retenues, mais il m'avait soumis une proposition de titre, donc Rocky Balboa 2, The Descent 2, Benjamin Button Renaissance, Batman Auto Reverse et Slumdog Millionaire The Last Word. Street Fighter The Legend of Zangief et Batman et Robin The Dark Dynamic Duo.
Voilà. Et pas mal.
T'en veux de mon piston?
Elle est pas mal, Seb, elle est pas mal. On te pardonnera l'intégrale de Michael Jackson. Un petit peu de fond sonore, on va breaker et tout. 12h37, on a. Non, on n'a pas le temps, sinon du sport, il va encore déborder. Amon Toby Nightlife dans le supplément week-end. Pour une fois, on se le met en entier. Voilà. Ciao.
Thank you.
sport. N'écoutez pas du sport. Il ne dit que des horreurs. Il est pire que moi.
Mon Dieu, c'est vrai cette légende urbaine ?
Ouais, mais pas que. Alors par contre, on va faire comme on fait d'habitude, hein, c'est-à-dire on cale le disque en direct. Alors tu prends le premier, là, celui que t'as dit, oh ouais, super.
Pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Et par contre, je ne te laisse pas le choix du morceau. Mais tu peux mettre le dernier, par exemple, quoi, ça ira très bien.
Et tu mettras le dernier, point.
Là.
Mais le dernier.
Sourire. Et avec le sourire. Hein.
En plus.
C'est pas ça, c'est que j'ai un... je suis allé un trop loin, je suis obligé de refaire le tour.
Oh,
ok, c'est... ok. Triste. Alors, on commence par un fight.
Yeah.
Full frontal. France 2, TF1, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais là, bah, ok, on va
mais
faire
ils ont
son
plus art. Urgence.
Ben non, mais bon, c'est pas grave, parce que ça se passe pas le dimanche pour une fois, ce sera mercredi prochain, avec tout d'abord en préambule absolument rien d'inédit, sinon des saisons inédites, hein, mais pas vraiment de nouvelles séries qu'on connaît pas et qui sort de on sait pas où, non, que dalle, le tout venant, les chaînes se réservent, on va dire, pour bah, peut-être le mois d'octobre à venir. Mais pour
c'est
l'instant,
une rentrée pépère. Hein.
Que, ouais, c'est vraiment une rentrée super pépère.
À
là,
l'économie.
Là, c'est le cas de dire.
TF1 ouais. avait promis que ce sera à l'économie sévèrement. Mais, là,
mais c'est pas ça le problème. C'est que maintenant, les pourvoyeurs de séries qui cartonnent se rendent compte que ces séries vont être achetées dans plein de pays. Et donc, on fait monter les enchères à fond les manettes. Et ça, ça dure déjà depuis 2-3 ans. Ce qui fait que bon, bah, y a un fight entre les différentes chaînes.
Ah, c'est pour ça qu'on a plus de séries australiennes, du coup. Ils découvrent. Ah,
oui,
à
oui,
côté,
oui.
c'est moins cher.
Bah, oui, oui, c'est moins cher, donc on peut acheter, quoi.
Ou hollandaise.
Bon, on n'est pas obligé d'acheter un lot. On achète la série haut de gamme plus le lot des autres séries, parce que si tu prends pas celle-là, tu n'as pas les autres. Hein, c'est le deal que font généralement les grosses chaînes américaines. Pour justement pouvoir vendre un petit peu plus et un
oui.
petit peu mieux.
Il est loin le temps où c'était Guy Lux qui proposait le programme et à vous de voter. Et oui, mon cher du sport, vous qui êtes près du standard téléphonique, dites-nous ce que les téléspectateurs ont décidé.
Je ne
vous entends plus.
Mercredi prochain donc à 20h45. TF1 vous propose la saison 5 de Grey's Anatomy.
Ah oui.
Ah, une bonne rediffusion, ça fait toujours plaisir.
Avec, non, c'est saison inédite en France, hein, la saison 5, donc avec 3 épisodes, bien entendu, hein, comme on a viré tous les épisodes de Criminal Minds, Esprit Criminel en français, il n'y en a plus à passer, hein. Si, il y en aurait à passer, mais enfin, on va se les garder pour un peu plus tard, quand même, hein, faut quand même pas pousser, quoi. Et donc, bah, on tape un petit Grey's Anatomy en prime time, attention, parce qu'avant, Grey's Anatomy, c'était quand même diffusé en deuxième partie de soirée, le lundi, hein, rappelez-vous. Moi j'en sais rien, j'ai jamais regardé. Non, je t'ai pas dit.
Non, moi non plus.
J'ai commencé à regarder et puis je me suis dit bon bah ouais d'accord, ok, d'accord,
non, c'est
t'as
pas
compris.
Mal.
C'est peut-être un peu plus intéressant à présent car la venue d'un nouveau médecin dans l'équipe de Grey's Anatomy, à savoir le docteur Owen Hunt, qui rentre d'un petit séjour qui n'était pas tout repos en Irak où il officiait là-bas. Et donc il intègre l'hôpital. Interprété par Kevin McKidd. Ah, on se dit oui, pas mal. Ben si, Kevin McKidd, l'un des deux personnages principaux dans la super série Rome.
Ah, mais j'ai okay. pas vu Rome.
Voilà, ok. Et avec, dans le premier épisode, il y en a 3 qui seront diffusés mercredi prochain à 20h45 sur TF1. Dans le premier épisode, un guest starring de luxe avec Cathy Baker et Cliff de Jong. Ah ah. Par contre, sur France 2, là également, une saison inédite d'une série française qui est vraiment excellente, qui est passée un petit peu inaperçue parce que diffusée bah, comme ça, un petit peu n'importe comment, on va dire. Hein, pas de rendez-vous fixe, d'abord c'était le vendredi, ensuite on l'a mis au mercredi. C'est Un Flic. Un Flic issu bah, de celui qui a mis le pied à l'étrier, on va dire, à un certain Marshall, Olivier de son prénom. Un ex-flic comme lui, Hugues Pagan, auteur de romans policiers parus dans la collection Rivage, entre autres. Hugues Pagan, donc, qui bah, s'est affranchi justement de Lee Marshall, qui commençait à déconner un petit peu et à se la péter grave. Et donc, Pagan continue son petit travail comme ça, et de séries policières de bonne facture sur la télé française. Et là, bah, c'est sur France 2 que ça apparaît mercredi prochain, donc cette saison 2. De Un Flic à partir de 20h35 dans la saison 1. le personnage principal, donc le commandant, je me rappelle pas son nom, était tenu par un black, une personne de couleur, donc Gaëtan Kounzot. C'est pas lui qui reprend le rôle, mais par contre, on a droit à Alex Decas, donc bah, on perd pas du tout au change, du tout. Hein. Là, y a pas de problème. À ses côtés, Marie-Gaëlle Kaltz, François Caron, Olivier Rabourdin, Jean-Jacques Levessier, donc bah, c'est toujours la même équipe. Et ce sont des téléfilms, donc il y en a 6 sur la saison. Là, c'est le premier qui s'appelle Bruit numérique, donc, et qui sera diffusé à partir de 20h35, mercredi prochain, sur France 2. Sinon, petite piqûre de rappel pour cette excellente série également, hein, qu'on avait pu voir sur Paris Première, c'était un petit peu au printemps dernier, me semble-t-il, hein, et consacré à Jesse Stone. Je vous avais fait un topo complet sur Jesse Stone, qui est, avant d'être un héros de téléfilm, eh bien, est déjà le héros d'une série policière écrite, hein, c'est-à-dire de romans policiers. Jesse Stone, donc, interprété par Tom Selleck. Tom Selleck, qui est également producteur et qui est en train de réaliser le dernier Jesse Stone qu'on verra peut-être l'année prochaine, si tout va bien. Et Jesse Stone, donc, piqûre de rappel, parce que Paris Première vous rediffuse donc ces téléfilms, sur des téléfilms qui font 1h30, hein, donc c'est pas mal, ça, c'est intéressant. C'est super bien filmé, c'est Robert Harmon qui réalise tous les téléfilms, et le casting est assez impeccable de toute façon. Alors, la mauvaise idée de Paris Première, c'est de diffuser deux Jesse Stone dans la même soirée, ce sera mardi prochain, et surtout de diffuser le premier, c'est-à-dire celui qui installe Jesse Stone dans une ville. Jesse Stone, c'est un inspecteur qui officie à Santa Monica, donc du côté de la Californie, à Los Angeles, hein, et qui, bon, a beaucoup de problèmes, il picole à fond les manettes et tout, et qui donc va se retrouver plus ou moins viré. Non, il pose sa démission, hein, du service des enquêtes criminelles où il est, pour aller prendre un boulot de shérif, mais de l'autre côté, sur la côte est, dans une petite ville vraiment tranquille, sympathique. C'est d'ailleurs le titre du premier téléfilm, hein, une ville trop tranquille, ou une ville résidentielle, où il n'y a pas de ghetto, il n'y a pratiquement pas de black, il n'y a pas d'asiatique, il n'y a pas d'espingouin, il n'y a rien, il n'y a que des bons bourgeois qui vivent comme ça. Bon, bien sûr, il y a également une population pauvre, mais c'est vraiment pas la galère, hein, du tout. Et donc, lui, il va s'intégrer dans cette ville, va prendre le poste de shérif, hein. Il faut savoir que aux États-Unis, les postes de shérif, eh bien, c'est payé par la mairie, c'est-à-dire par les instances dirigeantes de la ville. Donc, ils choisissent qui ils veulent et ils le révoquent quand ils veulent. Hein. C'est un contrat à durée déterminée, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas comme, par exemple, l'administration, les flics de la police, ou voir les enquêteurs du bureau du département de justice, hein, qui eux sont appointés par le service fédéral, c'est-à-dire par le pays, par l'État. Mm. Par l'État.
Ah, pardon. Oui.
Non.
Oui, le service fédéral, tu me trompes. Okay. Tu m'as trompé.
Excuse-moi. Voilà. Alors donc, Jesse Stone va arriver dans cette ville en se disant bon, ok, hein, ça va être pépère, tranquille et tout. Mais dès le premier épisode, ça va pas se passer exactement comme il voudrait. Et le problème également, c'est que les gens qui ont choisi, c'est-à-dire les instances dirigeantes, le maire ainsi que ses associés, c'est-à-dire les gros bourgeois de la ville, qui ont choisi de faire venir Tom Selleck, Jesse Stone, donc, eh bien, savent très bien que bon, c'est un flic qui était plus ou moins à la ramasse, qui est alcoolique et tout. Donc, a priori, il ne va pas poser de problème. A priori, il va rester dans son coin. Il va surtout s'occuper des crottes de chiens et d'autres dommages mineurs. Enfin bon, toutes les petites magouilles comme ça qui peuvent se produire et tout, il ne touchera pas trop parce que de toute façon, pour lui, c'est a priori, ce serait, ça va être une planque, une pré-retraite, quoi. Mais ça ne va pas se passer comme ça parce que Jesse Stone, sur le chemin qui l'emmène de la côte ouest à la côte est, il décide plus ou moins d'arrêter de boire. Bon, une promesse qu'il ne tiendra pas, hein, de toute façon, quoi. Mais bon, il va quand même se calmer un petit peu sur la bibine. Et il va jouer à l'emmerdeur en chef, de toute façon. Dans le premier épisode qui est diffusé en deuxième partie de soirée, il y a un premier épisode donc qui est diffusé à partir de 20h45 sur Paris Première. Malheureusement, il est déjà installé. Ça ne nuit pas vraiment, hein, à l'histoire. C'est-à-dire que chaque épisode peut se regarder indifféremment l'un des autres.
One shot.
Hein, ce sont des one shots. Mais par contre, ça aurait été bien de commencer depuis le début, voir comment ils s'installent, quels sont le début de ces rapports avec les différents personnages, surtout avec certaines personnes de la gente féminine. Alors, outre Tom Selleck dans le premier, donc Une ville trop tranquille, qui est diffusée mardi prochain à partir de 22h05, il y a Stéphanie March, la blonde qu'on a vue dans les saisons 7, 8 et 9, me semble-t-il, de New York District. Hein, c'était l'adjointe du procureur du
substitut. La blonde
La blonde, ouais. Attention, il y en a eu deux. Hein, il y a Stéphanie March et il y en a une autre après. Hein, c'est pas la deuxième, c'est la première. Et qui est donc avec Sam Waterston. Stéphane March, Stephen Baldwin là qui joue le rôle du méchant, mais c'est pas vraiment lui le méchant, enfin je vous en dis pas plus quoi. Bon, enfin bon, dès le départ tu sens que le mec, bon bah ok,
il est pas clean,
il est pas clean du tout hein, mais pas pour la bonne raison si tu veux quoi, c'est à dire c'est pas vraiment ça quoi. Et il y a également Polly Shannon et Saul Rubinek dans ce premier dans ce premier épisode au niveau hein, du temps. Par contre, le premier épisode diffusé mardi prochain sur Paris Première, en l'absence de preuves, eh bien on y a Jane Addams et Mimi Rogers, et me semble-t-il que c'est le deuxième en fait quoi. Donc ils ont juste inversé hein, par rapport à l'ordre de diffusion et de réalisation. Jesse Stone donc, mais ça, regardez, c'est vraiment très très bien. Tom Selleck est absolument impeccable hein. Là il y a pas de problème. Bon, il se la joue pas du tout Magnum hein, rassurez-vous quoi, il y a même pas un petit clin d'œil comme ça pour si ce n'est que bon bah il a tout le temps la casquette vissée, mais c'est la casquette de officielle hein, de sa fonction quoi, en fait, de shérif de cette petite ville. C'est mardi prochain sur Paris Première et c'est en version multilingue, donc bah on peut se taper un petit Tom Selleck en version originale, ça fait plaisir quand même. Sinon ce soir le retour donc de la saison 10, c'était déjà samedi dernier le premier épisode, mais là deuxième épisode de la saison 10 de New York Unité Spéciale à partir de 23h10. Bah ouais, il y a pas de match de foot ce soir, alors ça commencera comme d'habitude aux alentours de 23h10, plutôt 23h30,
oui,
on va dire.
Le top des 100 moments les plus affligeants de la télévision française va déborder.
Absolument. Alors donc, l'épisode s'appelle Meurtre, réveil, bouteille. Comme d'habitude, c'est un moins 12. Mais rassurez-vous, hein, d'ici 6 mois, ils le diffuseront le dimanche après-midi, vers 3h ou 4h l'après-midi, sans qu'il y ait la moindre estampille au moins 12. Hein. Ça, c'est, ils nous font le coup, de toute façon.
Non, ils le remontent en général. Hein.
Ouais, mais enfin bon, je veux dire, c'est pas quelques images qui sont un petit peu trash, qui changent quoi que ce soit au fond des histoires qui sont contées dans New York Unité Spéciale. Quoi. Alors bon, on peut dire ce qu'on veut. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est peut-être de suivre le développement qu'il y a entre la rivalité hein, et l'antagonisme qu'il y a maintenant entre Christopher Meloni, inspecteur Saber, et Odafine Tutuola, interprété par Ice-T. Ils peuvent plus se sentir, mais du coup, Ice-T, Odafine Tutuola, a posé sa demande de mutation, quoi. Et bon, pour l'instant, c'est pas encore accepté, mais enfin bon, c'est pas mal, c'est assez intéressant, parce que à partir de la saison 10, on sait que Olivia Benson, jouée par Mariska Hargitay a émis le souhait de s'arrêter de jouer dans cette série. Elle en a un petit peu ras la casquette et tout, elle a peut-être d'autres choses à faire et tout. Elle a créé d'ailleurs, ça c'est tout à fait officiel, une association qui vient en aide aux femmes qui ont été abusées, hein, qui ont été violentées, parce qu'elle-même, dans sa jeunesse, a connu ce genre de déboire et tout. D'ailleurs, dans les épisodes qui parlent justement de ce sujet, elle est plus présente que Christopher Meloni, qui lui, vraiment, a un rôle assez dur, assez facho, presque facho, on va dire, hein, sa vision des choses et tout quoi, c'est-à-dire pour lui ça c'est très simple, ça se résume de façon très simple hein. C'est un mec qui a fait des trucs dégueulasses, il faut le punir de façon dégueulasse quoi. Enfin bon, il y a pas de le pardon, la compassion, lui connaît pas trop quoi. Enfin du moins dans son rôle Sabler hein, bien entendu. C'est donc ce soir à partir de 23h10 et c'est suivi par un autre épisode mais qui a déjà été diffusé les années passées de la saison 8 et un petit peu plus tard vers 0h30, on a droit à New York Police Judiciaire. Alors faut que les mecs m'expliquent à la télé pourquoi pour une même série, eh ben on arrive à mettre deux titres différents. Parce que New York Police Judiciaire, en fait, ce n'est rien d'autre que New York District. Mais seulement ça s'appelle différemment. Mais attention, parce que bon, sur le titre que tu vois en début d'épisode et tout, ils ont marqué New York Police Judiciaire.
Bah, le magicien s'appelait bien l'île fantastique sur l'autre chaîne.
Ouais, mais bon, il faut quand même pas dire.
Mais là, c'est la même, c'est un peu triste.
New York Police Judiciaire, pourquoi ? Parce que ce sont des épisodes de la série inédite, c'est-à-dire de la saison 18. Mais bon, s'il faut attendre jusqu'à minuit et demi quoi, pour se taper un New York District, je continue à l'appeler comme ça, qui sont très bonnes factures, avec toujours Jesse L. Green dans le rôle principal de l'inspecteur Black, plus le nouveau Jeremy Sisto qui est vraiment excellent, mais vraiment excellent. Il y a des petites piques comme ça, des petites allusions, des petites vannes qui sont vraiment très très bien senties, qui aident à décompresser par rapport au climat toujours un petit peu oppressant de l'enquêteur, puis des substituts du procureur qui vont essayer de faire condamner les malfrats. C'est vraiment très très bien rendu. D'ailleurs, dans cette saison 18, on remarque qu'il y a moins de temps qui est consacré à la partie judiciaire en tant que temps passé dans le tribunal, c'est-à-dire le jugement, mais c'est plus la recherche de la vérité, d'une part, comme d'habitude hein, dans New York District, d'une part, au départ, par les inspecteurs, et ensuite, par les substituts du procureur qui sont là pour présenter un dossier impeccable de telle manière à être sûr de pouvoir faire condamner celui qui est présumé coupable. Et là, on s'attache plus vraiment au passage d'enquête, hein, des deux parties plutôt qu'aux parties qui sont toujours plus ou moins les mêmes, hein, répétitives on va dire, hein, le passage effectif au tribunal où bon bah, maintenant on sait comment ça fonctionne quand même. Alors New York District saison 18, on peut également le voir sur 13e rue, et là bah, c'est tous les vendredis soirs avec chaque fois les épisodes inédits de la saison 18. On en sera vendredi prochain à l'épisode 5 puis à l'épisode 6. Alors si vous regardez bien, eh bah, c'est pas compliqué. L'épisode qui passe le samedi soir, eh bien c'est le premier qui passe le vendredi suivant sur 13e rue. Donc il vaut mieux se les taper à 20h40, tranquille quoi. Hein, et puis bon, peut-être à la limite sortir après avoir vu le New York District spécial. Donc vendredi prochain, New York District saison 18. Donc l'épisode 5 s'appelle À Armes Égales et l'épisode 6 s'appelle Campagne Meurtrière. Parce qu'en plus, sur 13e rue, on les diffuse dans l'ordre. Et ça, ça fait toujours plaisir.
Enfin, d'un autre côté, c'est pas Bouygues, c'est Universal. C'est eux qui produisent la série.
Ouais, ouais, mais c'est Bouygues qui diffuse, quoi. Pour la version française, tu vois. C'est ça qui est un petit peu dommage. Sur Arte, à présent, à partir de ce soir, eh bien, diffusion d'une série qu'on avait pu voir, si on est décodé par Canal+, Les Tudors. Donc, je vous avais présenté ça à l'époque.
C'est série rock'n'roll et tout.
Assez rock'n'roll, un petit peu sexe quand même. Mais bon, qui est quand même de très bonne facture avec bon, bah, un casting en béton. De toute façon, hein, c'est un des programmes haut de gamme de chaîne américaine. Donc, ça sait se regarder agréablement. C'est ce soir sur Arte, donc à partir de 20h45. Ça prend donc la case de ce qui était dans les années passées réservé justement aux émissions documentaires historiques de Arte le samedi soir. On aura droit donc à cette série. Les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir à partir de 20h45 sur Arte. Alors je suis tombé dessus par hasard hier soir et c'est rediffusé ce soir à 1h20 du matin. Et c'est,
oh,
à propos, et c'est à propos. Et c'est à propos. Ouais, mais j'ai pas vérifié si c'était. Enfin, vu le sujet, c'est un moins 16 quand même. Rassurez-vous, c'est pas un documentaire de cul. Hein, c'est pas dans le ranch du lapin coquin ou un truc comme ça ou truc de striptease. Non. C'est par rapport à un livre dont je vous avais parlé il y a quelques années quand même, hein, qui s'appelle La Ferme des Corps, que je t'avais prêté, oh, mon gars. Et donc plusieurs documentaires,
je m'en souviens.
Tu t'en souviens. Deux documentaires donc ont été tournés à propos de cette ferme des corps. Le premier, quand William Bass, créateur de cette ferme des corps, était encore en activité, hein, c'est au Tennessee, à Knoxville, Tennessee, que ça se passe. Et cette ferme des corps, en fait, n'est ni plus ni moins qu'un endroit où un anthropologue a dit, pour résoudre des problèmes médico-légaux, savoir quand on retrouve un cadavre, quelle est sa datation exacte par rapport à plein de données qu'on commence à connaître maintenant, à étudier, c'est-à-dire d'après la sorte d'asticot qu'il y a dans le corps, on peut dire oui, il a séjourné tant et tant dans là, par rapport aux os qui étaient rongés par différents rongeurs, d'abord les rats, ensuite les écureuils et tout, on peut dire oui, d'accord, il est frais, il n'est pas frais et tout. Ben, ils ont décidé pour savoir.
Bon appétit.
Oui, et pour bien étudier ce genre de.
Non,
de
mais phénomène, toi, t'as pas lu le bouquin.
Je te le prêterai, ramènerai.
Ça ira.
Je le ramènerai. Ils ont décidé donc d'avoir des donations donc, de cadavres et de les laisser pourrir en forêt. et d'étudier justement quoi, les différentes étapes de la pourriture des corps pour pouvoir avoir des données vachement plus précises. C'est William Bass donc, qui a instillé cette ferme des corps, donc cet endroit. Hein, donc, et maintenant, ça sert également d'endroit pour les stagiaires de la police, c'est-à-dire des flics, des brigades homicides de tous les coins qui viennent faire des stages et tout, pour faire moins de conneries quand ils sont sur un lieu de crime et tout, quand ils ramassent des indices et tout, pour les aider hein, dans la collecte d'indices qui vont servir à choper les criminels. Également pour des gens qui, quand on retrouve un corps qui a été enterré depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, tiens, oh merde, le chien a déterré un os, oh mince, ce n'est pas un os d'animal. Alors bon, bah, ça permet des fois de retrouver des années après eh bien, ce qui s'est vraiment passé. Et c'est donc deux documentaires qui ont été tournés, le premier donc avec encore William Bass, et le deuxième tourné par une chaîne française et avec à sa tête un certain Arnaud Poivre d'Arvor. Vous allez me dire, oh là non, non, bah, détrompez-vous, bah, c'est pas mal du tout. Car dans ce nouveau documentaire qui date quand même d'il y a 2 ans, eh bien, on suit donc les gens qui ont repris le travail, hein, qui continuent ce travail en fait, hein, dans plein de domaines. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas uniquement les anthropologues, mais il y a également des entomologues, il y a également des spécialistes de tout domaine, donc, et qui nous racontent leur vie quotidienne, comment ça se passe, ce qu'ils font et tout. Et c'est pour dédramatiser un petit peu le propos, parce que bon, effectivement, certaines scènes, certaines vues, et certains sons d'ailleurs, hein, quand on est dans la nature et tout, quand on entend bzzz, les mouches qui volent et tout, ben on se dit aïe 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 aïe. Tu vois un truc comme ça quoi, qui est complètement informe, qui est couché par terre. On dit bon d'accord, c'est pas très ragoûtant quand même. Et donc on a les interviews des différents personnels qui travaillent dans cette ferme des corps et qui bon essayent plus ou moins de dédramatiser par rapport à leur travail de tous les jours quoi. Alors on a la jeune fille qui dit ouais moi ça me fait plus rien de travailler sur des corps et tout, elle est chargée de nettoyer les os et tout, de les rendre nickel et tout pour pouvoir les étudier par la suite et tout. Elle dit moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude et tout quoi. Ce qui me fait choper des cauchemars, c'est plus quand je vois un film violent et que je vois ce qui a provoqué justement ce que moi j'ai en main, c'est là que je fais des cauchemars quoi. Alors bon, des trucs comme ça quoi. Bon, on va carrément dans la famille d'une famille avec le père, la mère qui travaillent dans la ferme des corps, leur gosse et tout. Tiens, c'est bien, vous venez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est burger et tout. C'est journée burger et tout quoi. Puis la nana qui dit oui, mais burger végétarien. Hein. Depuis que je travaille là-bas et tout, je mange plus de viande, je peux plus. j'ai des problèmes et tout. Ça passe pas quoi. Bon, c'est vachement bien foutu. Hein. C'est assez excellent et tout. Et cette ferme des corps a également, parce qu'il faut savoir que certaines personnes qui travaillent à la ferme des corps sont citées dans les tribunaux comme experts médico-légaux. Et donc, aide à résoudre certains crimes ou des fois à faire sortir des gens qui ont été injustement condamnés hein, et qui sont prêts de passer sur la chaise électrique pour des crimes qu'ils n'ont pas commis quoi. Et d'après une expertise, parce que à l'époque ça n'existait pas, et bien d'après des expertises qui viennent 10 ans, 15 ans après, ils parviennent à faire libérer des gens qui ont été injustement condamnés et qui ont passé 10-15 ans au trou alors qu'ils n'étaient pas absolument pas coupables. Donc c'est assez intéressant, c'est du moins 16. Il y a certaines vues qui sont vraiment pas très ragoûtantes, c'est vrai, mais c'est vraiment très très bien foutu quand même. C'est sur Planète No Limites, donc ce soir à partir de 1h20 du matin, donc faites marcher le disque dur ou le magnétoscope pour les plus vieux d'entre vous. Revenons à quelque chose de moins ragoûtant avec... Cette fois, j'espère qu'il n'y aura pas une mort à honorer demain soir sur France 3, parce que Inspecteur Barnaby, qui s'est métamorphosé en Sim la semaine dernière, on l'a donné, ça suffit, les gars. Bon, d'accord, Sim était quand même quelqu'un de tout à fait respectable, mais enfin bon, déprogrammé. Le premier épisode inédit de la nouvelle saison d'Inspecteur Barnaby, il faut plus nous le faire, les gars.
La grandeur d'un homme ne se mesure pas qu'à sa taille.
Ouais, mais bon.
Oui, et là, il y a Thomas qui se réveille et qui fait « Toi, tu vas avoir des problèmes. »
Donc,
tu vas avoir des problèmes.
Demain soir, 20h35, ouh, France 3, Inspecteur Barnaby. Mais ce n'est pas l'épisode qui était auparavant, qui aurait dû être programmé dimanche dernier. C'est l'épisode qui est programmé normalement ce dimanche. Toiles Assassines, donc réalisé par Paul Smith. 2009, hein, donc c'est du tout frais, avec outre John Nettles, sa femme et tout ça, c'est-à-dire les personnages récurrents, bien entendu, Susanna Harker et Anne Furbank. Sinon, Paris Première, je vous en avais parlé la semaine dernière, Paris Première diffuse donc les deux épisodes suivants de cette excellente série Satisfaction, une série australienne initiée par Showtime, une chaîne américaine qui était petite au départ, hein, qui était un petit peu mangée par HBO, hein, qui a vraiment défriché, on va dire, au niveau série intéressante, novatrice. On parle des Sopranos, on parle de... on parle de Oz, de séries comme ça, hein, c'est-à-dire haut de gamme, quoi, tu vois, des séries qui ont du fond, vraiment du fond, et qui se tiennent du début jusqu'à la fin. Et Showtime, longtemps, a été la petite chaîne qui faisait quelques petits trucs comme ça, qui mettait pas trop de budget. Mais là, Showtime, depuis quelques années, a produit quelques trucs vraiment très, très, très intéressants. Et on passe, justement, de passer devant ces autres chaînes qui se montrent un tout petit peu plus frileuses depuis quelques années. Et là, ça s'appelle Satisfaction, c'est australien et c'est une déclinaison australienne donc de Showtime.
M'en douter, Dus.
Normal. Ça.
Oui.
Yes, Mr. DJ. Alors, ça se passe dans une maison de passe, dans une maison close, haut de gamme.
Ça fait trois fois que t'en parles.
Non, j'en ai parlé la semaine dernière parce que c'était le début, quoi.
Mais le haut de gamme, c'est juste un prétexte. Mais si, Christine, tu vas voir, c'est génial.
La regardez, hein, sans problème, hein, les deux épisodes. Hein. Et en fait, l'intéressant dans cette série n'est pas tant les scènes de sexe, on va dire, arrangées et les différentes façons. Les gens qui viennent qui sont relativement aisés, quoi, il faut le dire, hein, parce que ce sont des putes de luxe, hein, quand même. Les scénarios des scènes de sexe qui sont à la convenance du client, ça, bien entendu, avec tous les costumes possibles et imaginables, toutes les postures possibles et imaginables. Ce qui est plus intéressant en fait dans la série, eh bien, c'est que chaque épisode s'attache à une des pensionnaires de cette maison close et va essayer de développer un petit peu sa philosophie, sa sensibilité par rapport à son travail, mais également par rapport aux à côté, hein, c'est-à-dire sa vie de tous les jours. On a suivi dans le premier épisode l'aventure d'une belle blonde, hein, sympathique, mignonne, on va dire, mais qui est également la mère d'une fille de 14 ans qui commence à s'habiller un petit peu olé olé, hein, ce qui suscite les émois de sa mère. Non, tu vas pas sortir comme ça, t'as l'air habillé comme une pute. Enfin bon, là, c'est pas exactement les propos, mais enfin bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Et le deuxième épisode, qui est consacré à une nana qui a un client régulier, mais qui est en train de tomber amoureuse de lui. Et ça suit un petit peu ses déboires par rapport à ce qui peut se passer pendant qu'elle est avec d'autres clients. Les rendez-vous loupés entre ce type-là qui se balade entre l'Australie et la Californie, qui l'emmène d'ailleurs à un moment passer un gros week-end en Californie tranquille, à faire l'amour et à bronzer sur le bord de la piscine. Mais c'est vraiment très très bien rendu, c'est superbement bien filmé, hein. C'est pas du tout glauque et tout, pas du tout. Et en plus on a droit à des acteurs et à des actrices qu'on connaît pas, hein. Ce sont pour la plupart des Australiens et des Australiennes, donc, mais qui jouent vraiment très très bien, quoi. Donc, et en plus, bien sûr, c'est en version multilingue, donc on va pas gâcher notre plaisir. Satisfaction, c'est sur Paris Première demain soir à partir de 22h55. Le premier épisode, l'épisode 3 sur 10 s'appelle Une simple graine, et l'épisode 4 s'appelle L'éveil des sens.
À 13h12, vous écoutez FMR, c'est le supplément week-end.
Alors c'est Chantal,
et c'est du sport,
c'est Chantal qui va être contente parce que lundi prochain à minuit 5, bon là peut-être un peu moins, sur M6 les deux derniers épisodes de la première saison de Damages. Et là, ceux-là, il faut pas les louper.
Ah bah tu m'étonnes.
Parce attends, que ceux-là, attends, ils pètent. On s'est fait avoir parce que en fait, ils ont annoncé un seul épisode et en fait, ils ont diffusé les deux. Ouais, ils ont diffusé deux à la suite. Il y avait un truc après, je sais pas quoi.
C'était quand
c'était lundi dernier.
C'est lundi maintenant, avant c'était mardi.
Et ouais, bah ils ont inversé le truc, ils ont annoncé un seul épisode et en fait ils en avaient passé deux.
Ouais, mais bon, hein.
J'étais claqué, Chantal a eu le réflexe de continuer l'enregistrement.
M6 réagit maintenant comme une grosse chaîne, comme TF1, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est les deux derniers, dont le 12 qui s'appelle Sans Limite et qui est réalisé par Mario Van Peebles. Le 13 comme un miroir. Là vraiment, ces deux derniers épisodes, ils pètent excellemment bien, quoi. Tous les acteurs actrices sont impeccables dedans. Et bon, ben, on a plus ou moins la conclusion de cette première saison qui a été vraiment foisonnante, magnifique. Hein. Mais là, c'est vraiment à ne pas louper. Là, c'est vraiment du très très haut de gamme. Hein. C'est du 5 étoiles sans problème. Damages, c'est lundi donc à partir de 5:00 sur M6. Et sinon, pour terminer, c'est pas vraiment une série, c'est plutôt un documentaire. Hein. Jetez-y un coup d'œil quand même parce que c'est vraiment très 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 bien fait hein, sur France 2, cette apocalypse, cette histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le mardi à partir de 20h35, chaque fois deux épisodes. Là, vous avez loupé les deux premiers. Il y en a encore deux mardi prochain. Il y en a encore deux mardi d'après. Mardi en 8. Le troisième s'appelle Le Choc et le quatrième s'appelle L'Embrasement. Et là, le commentaire très sobre. Hein, Mathieu Kassovitz, là, vraiment, il se la joue pas et tout. Il est vraiment très humble et tout. Il reste derrière le texte. C'est vraiment du haut de gamme. Hein. Il y a rien à dire. Hein. C'est la colorisation. Les images sont colorisées. N'est pas tape à l'œil comme on a l'habitude de le voir dans certaines séries colorisées, certains films qui ont été colorisés par la suite, où des images, des couleurs vives comme ça qui tranchent vraiment. Quoi,
Daniel Schneiderman a fait une remarque assez étonnante, c'est il a dit c'est marrant de voir que les seules scènes qui n'ont pas été colorisées concernent la Shoah, par contre ça les a pas gênés de coloriser le bombardement nucléaire au Japon.
Ouais, mais enfin bon, ça
alors
on n'a pas encore
teinte,
vu, c'est les
c'est
derniers
aussi de
épisodes.
La teinte, c'est aussi de la teinte à épouser.
Ouais, mais
civile,
il faut dire qu'il y a des images qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, hein, justement, quand tu parles de l'histoire de la Shoah et tout, concernant certains ghettos, parce qu'on parlait souvent du ghetto, on parle surtout du ghetto de Varsovie, mais il y avait des ghettos dans toutes les villes. En fait, de Pologne, hein, c'est pas uniquement, on n'a pas rassemblé tous les juifs polonais, on les a ramenés à Varsovie et puis hop, allez, démerdez-vous dans cette espèce de ghetto. Mais dans toute chaque ville, pour un problème pratique, hein, de toute façon. Mais là, tu parles justement du fait que toutes les images n'ont pas été colorisées. Il est vrai qu'il y a certaines images qui ont été recueillies, je sais pas comment, quoi, mais qui sont vraiment d'assez mauvaise qualité, hein, des images rayées, avec carrément des ombres dues certainement à une surexposition, mais filmées par des amateurs, quoi, c'est-à-dire filmées par des gens qui avaient des caméras vraiment de bas de gamme, on va dire, hein, mais où on voit vraiment, c'est très flou, il n'y a pas de mise au point, mais qui ont valeur documentaire vraiment assez inestimable, quoi, justement. Et c'est pour ça que, bon, je pense qu'il n'y a pas eu ce travail de colorisation qui a été fait. De toute façon, la colorisation est très très sobre, hein, c'est-à-dire que c'est pas une image entièrement colorisée, hein, on met juste l'accent sur certaines parties de l'image pour rendre le documentaire un tout petit peu plus attrayant, c'est tout, hein. Mais c'est vraiment pas la colorisation comme des films colorisés du tout, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment très très bien, que j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Apocalypse, donc, c'est sur France 2 mardi prochain à 20h35.
And he's just as sweet can be. He hasn't even been tipsy since I left him and took to the sea. There's another waiting in Pomona with the cutest dimple in his chin. And there's a guy in Daytona who just waits for my ship to come in. I miss him on a bride, I ride 'em every night. But if you held my hand, I suppose they would all understand. Oh, you mustn't think I'm just a gypsy, but I really ought to set you right. There's a fella waiting in Poughkeepsie, but I'm strictly on my own tonight.
There's a wave who's waiting in Biloxi, says she's gonna marry me or bust. We're being married by proxy, when I find me a wolf I can trust. There's a spar who's waiting in Waukegan, who is really different from the rest. I think her last name is Regan, that's the name that's tattooed on my chest. A whacking Hackensack, a walk from Pontiac. I got them here and there. What the heck, chicks is chicks anywhere. Some of them are kind of Bobby Soxy, but it may be quite a lengthy fight. There's a wave who's waiting in Biloxi, but I'm strictly on my own tonight.
There's a sweetheart in Poughkeepsie, just as sweet can be, you see. He hasn't even been tipsy since I left him and took to the sea. Oh, you mustn't think we're gypsies, but we really ought to set you right.
Well, tell it tonight.
There's a fella and a gal waiting in Poughkeepsie, but I'm strictly on my own.
Yes, I'm strictly on my own.
Oh, we're strictly on our own tonight.
There's a fellow waiting Poughkeepsie, c'est comme ça qu'il prononce.
Ouais, ouais, presque.
Voilà, de Bing Crosby. Il y a quelqu'un qui attend à Poughkeepsie.
Voilà, voilà, ça dépend si tu viens du nord ou du sud, la prononciation en fait.
Et Bing venait du sud.
Bing Crosby avec les Andrews Sisters. Hein. Des films à présent avec de tout, de rien et même des films de Télérama. Ce soir sur RTL 9.
Ah.
Ça y est, c'est dit, c'est fait.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Ouais, tu verras, tu verras. Non, 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 là, j'ai un bon, hein, vraiment du bon, quoi. Ce soir, sur RTL 9, 20h35, comme d'habitude, un excellent western, Les Collines de la Terreur de Michael Winner avec Charles Bronson et Jack Palance. Alors, celui-là, il est excellent. Hein. Là, il n'y a après, rien à dire.
Et après, il l'a fait justicier dans la ville.
Ouais. Mais Michael Winner a d'abord commencé par faire pas mal de western. Sur Sci-Fi ce soir, une bonne soirée avec des bons films, ça fait plaisir, deux à la suite, tu vois, bon bah déjà vu, mais enfin bon, qui sait se regarder avec plaisir. Tout d'abord un film de super-héros à 20h45, Mystery Men de King Kalecher,
yes,
avec Ben Stiller, William H. Macy, Hank Azaria, Greg Kinnear, enfin bon, ouais ouais, c'est excellent quoi, y a rien à dire, hein. De toute façon un film où il y a Ben Stiller c'est bon.
Ouais, Zoolander, ouais, j'étais un peu sur ma faim, hein.
Bon, on va dire qu'un film avec Tom Waits c'est bon.
Ouais, ouais, ouais.
Parce qu'il y a ça ou Shortcuts, donc.
Ouais, ouais. Et suivi.
Il y a Dracula aussi.
Et suivi à 22h40 de La mort vous va si bien de Bob Zemeckis en 92 avec Meryl Streep, Bruce Willis, Goldion et Isabella Rossellini, entre autres. Très bien aussi, hein, vraiment excellent. Demain, dimanche, on va dire que c'est la soirée JCVD Gabin avec tout d'abord sur NT1 à 20h35. Alors, des mecs qui en ont, quoi. Sur NT1, 20h35, Double Impact de Sheldon Lethich avec JCVD et Geoffrey Lewis.
Ouais, l'un des moins pourris qu'il ait fait. Tiens.
Sur 13ème rue, spécial Gabin avec deux excellents films. Tout d'abord à 20h40, le Désordre et la Nuit de Gilles Granger en 57 avec, outre Gabin, Daniel Darieux, Nadia Tiller, Roger Hanin, Robert Manuel. Si c'est un flic et tout qui tombe amoureux d'une nana qui est camée et donc il va essayer de la sortir de là et tout, mais c'est vraiment super. Et à 22h15, voici Le Temps des Assassins de Julien Duvivier. Alors là, c'est presque un chef-d'œuvre du cinéma.
Un des bons points qu'il a fait.
C'est un des très bons polars des années 50, hein, polar français avec Daniel Delorme et Gérard Blin. Et il y a également Gabin sur Arte demain soir dans la soirée spéciale Maigret, car le film diffusé avant le docu sur Maigret, tout Maigret, c'est Maigret tend un piège de Delannoy en 57, donc avec Jean Gabin.
Jean
contrairement au titre.
Et il est bien celui-là. Et
également, ouais, mais il est passé à chaque fois, quoi. Il y en a d'autres, quoi, qui sont pas mal aussi, quoi. C'est, à chaque fois, il passe celui-là, quoi. Bon.
Bah, c'est à cause de son final, assez spectaculaire.
Ouais, hein. ouais, c'est Maigret, hein. Jean de Sailly et Annie Girardot en 57. Imagine un peu. Aïe, 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 aïe.
Et elle est à fond.
Aïe, 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 aïe. Sur Cinéma Frisson, Ciné-Cinéma Frisson, toujours demain soir. Eh bien, ouais, 20h40, Universal Soldier de Emmerich avec JCBD, Dolph Lundgren et Ali Walker, profileur. Et à 22h25, Universal Soldier, le combat absolu de Michael Rogers en 99 avec JCBD et Michael J. White.
Par contre, quand il était venu nous voir à notre ancienne boîte, il avait dit « Oh, quelle merde ce film !» Alors, si même lui le dit...
Voilà, c'est bref. pas grave. Au moins ils diffusent les deux et tout, comme ça tu peux faire une idée.
C'est cool.
Et le seul film.
C'est le 3 en plus, la suite, parce que dans le 2 ils jouent pas Van Damme.
Non, parce qu'il y en a un autre entre, quoi. Ouais. Mais là c'est ceux avec JCBD, quoi. Ouais. Donc, et le seul film demain soir où il n'y a pas JCBD, mais on n'y perd pas aux chances, au change, c'est un Walter Hill mineur, on va dire, de 92 qui s'appelle Les Pilleurs, avec Bill Paxton, William Sadler et les deux Ice-T et Ice Cube. Et bon, il se laisse regarder quand même, il est sympathique et tout, mais bon, pour Walter Hill, quoi, ça la fout un peu mal quand même, il faut le dire ce qu'il est, quoi.
J'essaie de me souvenir du titre en VO et je crois que je l'avais vu sous le nom de Trespassers.
Ouais, c'est peut-être ça, ouais, t'as raison.
Pour moi, c'est sous ce nom-là que je connaissais.
Ouais, mais quand je dis les titres en anglais, vous me regardez tous avec des billes de clown, quoi, l'air de quoi ils parlent et tout.
Pas
donc
que pour les
ça,
titres
quoi.
En anglais, hein. Pas que pour les titres. On te regarde avec des billes de clown pour les...
Lundi sur Arte à 20h45 dans le cycle Les Grands Classiques Méconnus. Le train de 16h50. De George Pollock en 61.
Suite, le trait de 16h51.
Film britannique dans lequel Margaret Rutherford nous livre sa première interprétation de Miss Marple au cinéma, avec Arthur Kennedy également et Stringer Davis. Sur France 4, pour un moment de bonne poilade, à 20h35, 2h moins le quart avant Jésus-Christ de Jean-Yann.
Avec, grand moment d'histoire.
Avec pratiquement que des Michel. Michel Colucci, Michel Serrault, Michel Auclair. Ah ben il y a Jean-Yann quand même, alors ça va. C'est bon quoi, mais bon...
Mais lui il est juste là pour dépannage.
Ça ne vaut pas les premiers Jean-Yann, hein, les Chinois à Paris et l'autre qui se passe dans une radio là.
Le truc qui... Show Business
Non, le truc qui se passe dans une radio.
Charlot
non, pas les Charlot, Jean-Yann.
Les films de Jean-Yann, je les ai tous. Putain.
Bon, laisse tomber, c'est pas grave,
allez,
tant pis.
Allez, Wikipédia.
Allez, Wikipédia, fais péter. Et lundi également, sur TCM, une bonne soirée avec tout d'abord un excellent Brian De Palma, Fury, avec Kirk Douglas, John Cassavetes, Caris Noges. Ah, celui-là, il est excellent. Alors là, bien, hein, vraiment bien. Hein. On s'attendait à ce que Brian De Palma, après Carrie, après Sister Blood, Sœur de Sang, bah, il descende un petit peu. Mais là, Fury, je peux dire que bon, bah ok, il garde le rythme, quoi, le gars.
Je crois que j'ai retrouvé, c'était tout le monde est beau, tout le monde est gentil que tu cherchais.
Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout à fait.
De Palma.
Fury
De Palma.
Donc Fury de Palma lundi sur TCM à 20h45, suivi à 22h40 d'un petit film méconnu, un western d'Abraham Polonsky en 69 avec Robert Redford, Katharina Ross, Barry Sullivan et Robert Blake, dans lequel Redford joue le rôle d'un indien, hein, et Katharina Ross le rôle d'une indienne, hein, et il tue un mec et donc il se fait poursuivre par un shérif et tout qui veut se venger, enfin dans tout le bordel, comme d'habitude dans les westerns, mais c'est quand même vachement bien. Sur Orange Ciné Choc, alors ça c'est pour toi Thomas, la soirée de film japonais complètement improbable, le premier, je peux vous en parler un
allez,
tout petit
dis
peu.
Allez, dis qu'il y a du Mickey dedans.
À 20h40, c'est Calamari Wrestler.
Ah, mais oui.
Voilà.
Alors le mec, il a fait Battlefield Baseball, je crois. Ou... Non, il a fait le Calamari Wrestler.
Minoru Kaso Kawasaki.
Ouais, non, il a fait un autre truc avec pas des calamars, mais...
Mais justement, et c'est suivi à 22h15 par Executive Koala.
Je prends ça.
Ah oui, c'est sur Orange Ciné Choc. Bon, alors là, voilà, quoi, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, et en même temps, sur lundi prochain également, sur Orange Ciné Géant, deux chefs-d'œuvre du cinéma français à 20h40, Le Jour se lève de Marcel Carné, avec encore Gabin. Là, il est excellent, hein, c'est le film du flashback, quoi, où il se souvient de ce qui s'est passé et tout, Arletty et tout ça, quoi, où il est enfermé dans un hôtel, dans une chambre, et puis bon, t'as tout le monde qui veut le choper et tout, quoi. Mais c'est magnifique, hein, c'est excellent, quoi. Et il y a également, à 22h10, un autre film de Carné magnifique, Quai des Brumes. Donc ça, c'est sur Orange Ciné Géant, lundi prochain. Ensuite, mardi, Cinéma Frisson, on vous propose Sin City de Rodriguez et Miller à 20h40, où on a eh bien, justement un film avec le monsieur dont on a écouté une chanson juste avant, Bing Crosby sur TCM, vachement connu, hein, High Society, Haute Société de Charles Walter, 156. Hein. C'était le chant du cygne pour la comédie musicale américaine.
Oui, mais c'est une comédie qui est très rigolote.
Mais on a Bing Crosby, Grace Kelly, Frank Sinatra et Celeste Holm. C'est vraiment du très bon. Ça, il faut le dire quand même. Les numéros dansés ne sont pas à la hauteur des grands classiques de la comédie musicale. Mais ça reste quand même un divertissement vachement agréable et surtout musicalement parlant, hein, on a Bing Crosby et ensuite celui qui considérait Bing Crosby comme son idole absolue, Frank Sinatra, hein, qui a pratiquement tout copié sur Bing Crosby. Bing Crosby, il faut bien le rappeler, c'est le mec qui a eu une carrière absolument mémorable dans les débuts des années 30 jusqu'aux années 40. Ça a été le big monsieur de la chanson aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que c'est le premier qui a su se servir d'un micro. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils étaient là, et puis quand ils chantaient, quoi, eh bien, ils avaient un micro en face d'eux. En plus, c'était les gros trucs vraiment énormes, quoi, qu'ils avaient à l'époque et tout. Donc, ils cherchaient plus ou moins à éviter le micro. Et lui, il a appris, c'est le premier mec qui, sur scène, se sert du micro et joue comme d'un instrument. C'est-à-dire, le micro est un partenaire de la prestation que donne l'artiste. Et par la suite il a plus ou moins mal tourné et tout. De toute façon c'était un alcoolique fini, ça on le sait. Mais par contre au niveau chant et au niveau timbre de voix, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon, Bing Crosby. Donc c'est High Society sur TCM lundi, mardi prochain à 22h45 sur Ciné Polar. Par contre, encore un grand classique de Hitchcock en 34, L'homme qui en savait trop, avec Leslie Banks, Edna Best et surtout un Peter Lorre. Wow. excellent. De toute façon, Peter Lorre, il est toujours excellent. Hein. Et Frank Vesper, donc c'est sur Ciné Polar à partir de 21h. Le film de la grosse daube, mec, dont je parle à chaque fois qu'il passe, c'est normal. C'est sur Action, mardi prochain, 20h40. Beowulf de Graham Baker.
Oui, la version avec Christophe Lambert.
Avec Christophe Lambert, God Soto, Rona Mitra. Eh ben oui, il faut ce qu'il faut, hein, quand même.
Il y a Rona Mitra dedans.
Eh ouais. D'accord. Mercredi prochain, sur RTL9 à 20h35, Air Force Bat One. Ce n'est pas un film de chauve-souris qui pilote des avions de chasse. C'est un film de Peter Markle en 88 avec un excellent Gene Hackman qui joue le rôle d'un colonel américain qui se retrouve perdu dans la jungle du Vietnam et qui doit se faire sauver par des...
Rambo.
Rambo, il n'est pas encore là, quoi.
Non, il chasse le prédateur, Rambo.
Ben non, et ben justement, par Danny Glover.
Quel enchaînement.
Bon bah ça y est, j'ai mon introduction pour la semaine prochaine.
Non, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Bon, Gene Hackman est toujours bon, quoi. Y a pas de problème. Mais le film se tient quand même pas mal. Hein. C'est bien, quoi. Sur Energy 12, mercredi prochain. Alors celui-là, on va pas le louper. Ça c'est clair. De toute façon, Ninja en guerre de Bradford May, film récent 2008 avec Casper Van Dien, Starship Trooper. Et non, surtout pas. Et surtout Anthony Wong.
C'est quand
Ninja en guerre sur NRJ 12, mercredi prochain, 20h35. Il y a également Bellamy Young, Christy Wu.
T'as pas de bol, il y a un match Yuan de foot à ce moment-là.
Non, c'est celui sur Canal. Mercredi, c'est sur Canal.
Mardi, c'était F1.
Mardi, c'est
OM
Marseille. Ouais, c'est ça. T'as tout compris. mercredi également sur Cinéma Club à 20h40. Family Life de Ken Loach. Et celui-là, laisse tomber les autres, quoi. C'est même pas la peine. Si t'as pas vu celui-là, t'as pas vu de Ken Loach. De toute façon, hein, avec l'histoire de la nana qui devient schizo, qui est suivie par les psys et tout, quoi.
J'ai pas vu.
Aïe. Alors là, mon gars. Sandy Ratcliffe, Bill Dean, Grace Love et Michael Riddle, entre autres. Hein, c'est un des chefs-d'œuvre de Ken Loach. Vraiment, c'est un des chefs-d'œuvre de Ken Loach, quoi. Après, bon, bah ok, hein, ça reste du Ken Loach, quoi. Mais là, t'en prends plein la gueule, quoi. Et si tu resitues le film dans son contexte à l'époque, en 71, c'est là que vraiment tu te prends une claque dans la gueule comme t'en as jamais pris. C'est sur Ciné Cinéma Club, mercredi prochain à 20h40, Family Life de Ken Loach. Sur Ciné Polar, mercredi prochain à 21h, Romeo is Bleeding, un polar sympathique de Peter Medak avec Gary Oldman, Juliette Lewis, Roy Scheider et Lena Olin. Ça se laisse regarder, hein, c'est gentil, quoi. Mais si, et puis Gary Oldman, hein, merde, quoi. Gary Oldman, merde, quoi. Jeudi prochain, Paris Première, encore du film français de qualité, Le Cab se rebiffe, avec encore Jean Gabin, c'est une semaine Jean Gabin, de Gilles Granger en 61, avec Bernard Blier également, Martine Carole, Maurice Biro et Françoise Roset. Sur Direct 8, encore du film français de qualité, quoique c'est, on va dire, sur l'affiche, on aurait pu croire que ça aurait donné un truc super et tout, mais le résultat est quand même relativement moyen. Mais ça reste quand même un film de Michel Audiard avec des dialogues d'Audiard. Faut pas prendre le titre et d'Audiard également. Faut pas prendre Les Enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages. Avec une Marlène Jobert magnifique, Françoise Roset encore, Bernard Blier, André Pousse, Robert Dalban. Mais ça se laisse quand même vachement bien regarder sans problème. Et sur AB1, un excellent film de James Mangold à 20h40, Copland, avec Stallone, De Niro, Keitel, Liotta et j'en passe, hein, parce qu'il y en a encore d'autres, quoi. Mais excellent. Sinon, jeudi prochain sur Ciné Cinéma Club, une soirée spéciale érotique suédoise de Gustav Wiklund, avec tout d'abord à 20h40 La Possédée de 1971 avec Christina Lindbergh et Brigitte Hamelin, et à 22h05 Libre Échange 1974, toujours de Gustav Wiklund avec Christina Lindbergh encore, Solveig Anderson et Gunilla Larsson. Attention, ce sont des érotiques, ce ne sont pas des pornographiques. À l'époque, on parlait de porno suédois.
Ça veut dire que les enfants de moins de 16 ans ne peuvent toujours pas regarder.
Ah, et moins 16 de toute façon, mais enfin bon, ce n'est pas du sexe explicite quand même.
Et attention, c'est de l'érotique des années 70. Donc bon,
oui, mais...
suédois. Elle montre une épaule. Oh non!
Non, là c'est quand même vachement rigolo. Hein, mais bon.
L'érotique suédoise des années 70, c'est au contraire le plus sulfureux qui existait à ce moment-là.
Absolument, absolument.
C'est quand alors
jeudi prochain sur Ciné Cinéma Club. Donc, sur TCM, jeudi prochain à 23h20, Ballet Masque de Richard Brooks. Avec ça, c'est aussi un grand film. Hein, avec Bogart, Ethel Barrymore, Kim Hunter et Ed Begley. Il joue le rôle d'un journaliste qui va essayer de démonter une gigantesque fraude, une corruption et tout dans sa ville. Et c'est excellent, hein, de toute façon, quoi. C'est tiré d'un polar qui est également excellent. Et le réalisateur, Richard Brooks, hein, c'est quand même le mec qui nous a fait 200 froids un peu plus tard, quoi. 10 ans plus tard, je crois, en 62. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, vendredi, sur RTL9, Le Flingueur de Michael Winner. Ce n'était pas encore Le Justicier dans la ville. Justicier dans la ville, c'est plutôt dans la fin des années 70. Là, c'est Le Flingueur de Michael Winner avec Charles Bronson, Jan Michael Vincent, Supercopter, Keenan Wynn et Jill Ireland.
Ils font un duel entre deux tueurs à gages.
Ouais.
À la fin, voilà.
Cinéma classique, vendredi prochain à 20h40, Affreux, sale et méchant de Ettore Scola. Là, rien à dire, hein, c'est du très bon avec Nino Manfredi et Garofalo et tous les autres. Sur Ciné Polar, vendredi prochain à 21h, un petit polar pas trop connu, Rapport confidentiel de Milton Katselas en 75 avec un tout jeune Michael Moriarty. Un jeune également Yaphet Kotto, mais je crois qu'on avait déjà vu dans le James Bond L'homme au pistolet d'or. Yaphet Kotto, c'est le Black là, qui joue dans Homicide. Et il me semble que L'homme au pistolet d'or, celui avec Christopher Lee, date de 74, me semble-t-il. Donc 75, c'est juste après. Suzanne Blackley et Hector Elizondo. C'est sur Ciné Polar, vendredi prochain, 21h, Rapport confidentiel. Et le dernier film, Pour la route, bah justement, c'est un film de bagnole.
Très fort.
Orange Ciné-Choc, 21h30, La course à la mort de l'an 2000, de Paul Bartel.
Oh, c'est le meilleur film de Sylvester Stallone.
Non, tu te trompes.
Ah, bah, il est
David Carradine. C'est pas celui-là,
il y a Stallone dedans.
Parle de Driven.
Je pense qu'il a raison, parce qu'effectivement, tu as Stallone en guest dans ce film.
Non, il est
connu sous un autre nom de ce film.
Mais je te jure qu'il y a Stallone dedans.
Ouais, parce
la
qu'il
course
y a...
à la mort de l'an 2000, j'en suis sûr.
Bon, bah, si tu le dis, hein, on te croit sur parole, il n'y a pas de problème. Donc, c'est sur vendredi prochain, donc 21h, sur Orange Ciné-Choc. Et putain, t'as vu, je suis pratiquement à l'heure pour commencer l'émission de sport. C'est pas magnifique, c'est
cool.
Pas beau là.
Trop bien.
Hein ?
On va te faire déborder le temps que je le trouve. La course à mort de l'an 2000. Allez, Sylvester Stallone.
Ah bah ouais, bah
bon. Mitraillette, John Viterbo. Bah voilà.
Le nom du titre en anglais, c'est quoi ?
Ah, je ne sais. Bah là, je viens de fermer, t'es rigolo.
Death Race,
toi,
of...
Enfin, non, mais c'est pas quelque chose dont on se souviendra très longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein ? Mais bon, ceci dit, par contre, faudrait peut-être céder la place parce que du sport a beaucoup de choses très importantes et extrêmement utiles à annoncer à nos amis qui suivent le sport. Mais ceci dit. Thomas, tu sais, il y a des gens, ils arrivent comme ça en plein milieu ouais, et qui en plus ont même pas réécouté le podcast après, ils ont rien à foutre.
Donc est-ce que tu peux leur dire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours ?
Oui, tout à fait. Nous avons
ah oui,
une,
c'est vrai, c'est pas moi qui devais dire ça.
Nous avons une interview de Kinou aujourd'hui, une intervention de Kinou, on a eu Francis Kunz, on a eu Frédéric Boilet avec une coupe autrichienne, on a eu de la nana à poil, des films incroyables mais vrais, le retour de Magnum, l'inspecteur Barnaby qui redevient titulaire, le Beowulf peroxydé. Et Gary Oldman, merde quoi!
Non, non, dérapage, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouillées dans nos archives, jouer les quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 80.1 MHz, nous sommes en direct en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net.
Avec un direct en extérieur tout à l'heure à 15h. Ouais. Et dans le prochain épisode, j'ai quelques BD qui devraient beaucoup plaire. On m'annonce d'ailleurs prochainement le retour de Bambi.
Aïe.
Tu sais, celle qui a combattu.
Oh non!
Ah, c'est.
Tsuchi Kaneko?
Ah oui!
Mais ouais. On ne serait pas en direct du festival de rue de Ramonville, par exemple, la semaine prochaine?
Si, je crois, oui, pardon.
Ah oui.
Ah, il va falloir s'en préoccuper. Voilà, c'est deux choses à annoncer, effectivement, pour les dédicaces. Benoît Delac pour Missy Dominici, ce sera un hybride album samedi 26 septembre. À partir de 15h normalement, et Riff Rebs pour Au bord de l'étoile matutine. Mais normalement, je crois que c'est pas encore sorti. Ce sera là aussi, la librairie album sera le jeudi 8 octobre, ce sera en plein milieu de semaine.
Ouais, et l'affaire Dominici, c'est également un film avec
voilà.
Jean Gabin.
Et aujourd'hui, normalement, il y a.
Michel Serrault.
Et qu'est-ce que tu fais là, JB ? Je te rappelle qu'aujourd'hui, il y a en dédicace.
Il y a Lewis Trondheim. Je sais, mais non. Je bosse.
Ah, bah j'irai lui dire le bisou pour toi.
Ok.
Oui, parce que si tu dis que tu viens de ma part, il va faire la gueule.
Il te connaît pas.
Ça, on va juste lui montrer la photo.
Ah ! Allez, à plus, ciao, bye.
Ciao.